Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qualifie de spectacle meurtrier les dernières frappes russes la nuit dernière sur Kiev. Nous serons en ligne dans un instant avec notre correspondant en Ukraine, Bastien Bory. Le Canada, dans la foulée de la Grande-Bretagne, dit son intention de reconnaître l'État de Palestine. Il y a quelques minutes, cette déclaration venue de Berlin, Israël est de plus en plus minoritaire sur la question palestinienne. Précision de Nathanaël Charbonnier. Reportage dans une prison allemande qui a aiguisé la curiosité du garde des Sceaux français. Et pour cause, ce sont des préfabriqués qui permettent de créer en un temps record de nouvelles places et de lutter ainsi contre la surpopulation carcérale. Toujours en France, des atteintes à l'environnement non sans conséquences sur la santé devant la justice. La famille de Théo Grataloup a perdu ce matin son procès contre Bayer Monsanto qu'elle accuse d'être responsable des malformations congénitales de Théo, âgé de 18 ans, explication de Florence Turm. Et puis c'est une information d'ici Alsace. Une plainte collective est sur le point d'être déposée à l'encontre de Saint-Louis Agglomération et Veolia concernant les PFAS, les polluants éternels. Depuis 3 mois, les habitants de 11 communes du Haut-Rhin sont soumis à des restrictions d'eau. Au moins 6 morts à la suite d'une série de frappes russes sur Kiev, information livrée par l'administration militaire de la capitale ukrainienne. Des missiles et des drones se sont abattus, entre autres, sur des immeubles d'habitation. Moscou prétend par ailleurs que ses forces ont pris le contrôle de la ville de Tchafizyar, considérée comme un verrou stratégique dans l'est de l'Ukraine, après 16 mois de combats acharnés. Un mensonge total, selon un haut gradé ukrainien. Bonjour Bastien Bory, en direct de Kiev.
Bonjour à vous.
Ces informations, vous les confirmez, il y a eu des bombardements d'un type particulier.
Oui, 300 drones, dont une majorité de drones kamikazes Shahed, une dizaine de missiles balistiques et de croisière, et une triste nouveauté, des nuées de faux missiles et de drones factices. C'est une puissance de feu qui trahit la volonté du Kremlin de saturer la défense anti-aérienne de Kiev, d'ordinaire assez efficace contre les raids russes, mais cette nuit l'attaque a été longue, complexe. Elle a duré 6 heures, de 23h à 5h du matin. Tous les canons de la DCA ukrainienne postés dans la ville étaient en activité, dans un fracas qui a laissé plusieurs ruines, dont celle d'un immeuble sous lequel ont été extraits 6 corps sans vie. Un enfant de 6 ans fait partie des victimes. Bâtiments résidentiels, hôpitaux, écoles, tout y est passé cette nuit. Pour des Ukrainiens de la capitale qui pensaient à tort que cette guerre s'éloignait après une semaine de relative accalmie à Kiev. Parce que justement, l'armée russe mise sur l'usure du camp ukrainien et occidental. Volodymyr Zelensky recommande aujourd'hui la confiscation de tous les avoirs russes. Il appelle à un renversement de régime à Moscou. Mais cette pression diplomatique constante ne suffit pas à changer l'équation meurtrière posée par l'armée russe, qui déclare ce matin avoir présumément capturé la ville de Tchassiviar dans le Donbass après 2 ans de combat. Donc Donald Trump tient sa réponse à l'ultimatum qu'il a posé. Cela dit, il reste du temps, celui-ci expirant vendredi prochain, le 8 août.
Merci à vous, Bastien Bory, à Kiev. Est-ce là le fruit d'une dynamique enclenchée à New York en début de semaine lors d'une conférence onusienne sur la paix au Proche-Orient? Le Canada s'apprête à reconnaître l'État de Palestine. Hier, la Grande-Bretagne, aujourd'hui le Canada. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Le Canada fait partie des 14 pays qui, en effet, à New York, se sont engagés à le faire sous conditions.
Oui, ce n'est pas un chèque en blanc que fait le Premier ministre canadien avec sa promesse de reconnaissance. Si Mark Carney explique qu'il est convaincu qu'il existe une solution à 2 États dans la région, si le Premier ministre est sensible aux multiples rapports internationaux qui expliquent que le pire scénario de famine est en cours à Gaza, il reste toutefois prudent en rappelant dans sa déclaration qu'il attend en retour que l'autorité palestinienne réalise de vraies réformes, notamment des réformes démocratiques.
Le Canada a l'intention de reconnaître l'État de Palestine lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2025. Cette intention repose sur l'engagement de l'autorité palestinienne à faire des réformes nécessaires, notamment réformer fondamentalement sa gouvernance, organiser des élections générales en 2026, et démilitariser l'État palestinien.
Et autre demande du Premier ministre canadien, que le Hamas qui gère Gaza relâche les otages et surtout que le Hamas ne participe pas à l'avenir à la gestion de cet État palestinien qu'il envisage de reconnaître, une prise de position bien accueillie par la France, mais aussitôt condamnée par Israël et les États-Unis.
Nathanaël, est-ce qu'il est pertinent de penser que les lignes bougent ?
Écoutez, ce qui bouge déjà, c'est l'opinion qui voit un peuple mourir de faim et qui ne peut l'accepter. Ce qui change aussi, c'est le discours de certains pays, comme on vient de le dire, la France, la Grande-Bretagne, le Canada, qui semblent se coordonner pour faire monter la pression sur Israël avec un moment clé, la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui aura lieu en septembre. On peut imaginer l'impact que pourront avoir ces reconnaissances en série à la tribune de l'ONU, c'est-à-dire devant le monde entier. On peut ajouter donc que ce matin encore, Berlin a jugé qu'Israël est de plus en plus minoritaire sur la question palestinienne. Et si cela fragilise Israël dans sa politique, eh bien cela fragilise aussi l'autre camp. Je vous rappelle qu'il y a deux jours, 17 pays, dont l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Égypte, ont appelé le Hamas à mettre fin à son contrôle de Gaza et à remettre ses armes à l'autorité palestinienne. Le texte condamnait aussi l'attaque sans précédent du 7 octobre 2023. Et cela, c'était une première pour des pays arabes.
Merci à vous, Nathanaël Charbonnier. En Angola, troisième journée consécutive de mobilisation contre la hausse des prix du carburant. 22 personnes tuées lors des manifestations accompagnées de pillages, 1200 arrestations selon les autorités. La France est l'un des trois pays européens où la surpopulation carcérale est la plus importante, selon le rapport annuel du Conseil de l'Europe. Les prisons accueillent près de 84 000 détenus pour 62 000 places. Comment lutter contre le phénomène ? La réponse, eh bien, pourrait venir d'Allemagne. La prison de Meppen, avec 400 détenus, comporte plusieurs bâtiments modulaires, autrement dit des préfabriqués qui permettent de créer en un temps record de nouvelles places de prison. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, est d'ailleurs allé visiter cet établissement du nord-ouest de l'Allemagne il y a quelques semaines, et Sébastien Baer aussi.
Encore un tour de clé pour déverrouiller la grille. Et voici les 10 cellules, chacune avec télévision, bureau, toilette, douche. Les modules préfabriqués ont été livrés clé en main, explique Bernd Salfeld, le directeur adjoint de la prison.
Tout a été mis en place en l'espace de 3 jours. On a passé les modules par-dessus la clôture avec une grue. C'est comme des briques de Lego. Ensuite, il a fallu 3 mois pour installer le chauffage et l'électricité. Pour une construction traditionnelle, cela aurait pris des années.
Les modules ont été conçus dans un atelier de Leipzig à 500 km de là, et acheminé par convoi exceptionnel. Bernd Zulman a supervisé la construction.
Il a fallu déterminer à l'avance et au millimètre près l'emplacement de l'eau, des raccordements et des prises électriques. Car tout est déjà coulé dans le béton et donc on ne peut plus rien modifier contrairement à une construction classique.
En l'espace de quelques mois, ces préfabriqués ont permis de réduire la surpopulation carcérale tout en assurant une sécurité maximale, affirme Jürgen Thiem, le concepteur.
Tous nos modules ont été soumis à des tests contre les effractions, les évasions, les tirs et les explosions. Les murs font 12 cm d'épaisseur, le béton est de haute qualité, c'est du C45, plus solide encore que le béton classique. Personne ne s'est jamais évadé.
D'autres projets de prison modulaire sont en cours en Allemagne. La Suisse et l'Autriche sont également intéressés.
Il est 12h38, vous écoutez le journal de France Culture. La justice civile vient de se prononcer aujourd'hui dans l'affaire Grataloup, du nom de cette famille iséroise qui poursuit le groupe Bayer, fabricant du glyphosate. Le couple est persuadé que l'utilisation de cet herbicide pendant la grossesse a causé des malformations congénitales dont souffre son enfant. Elle voulait que la justice reconnaisse la responsabilité du groupe de chimie, mais ils viennent d'être déboutés. Florence Turme.
À l'audience du 3 avril dernier, les avocats de Monsanto avaient plaidé l'absence de tout lien de causalité entre le glyphosate et les malformations congénitales du jeune garçon. Les parents de Théo Grataloup, eux, s'étaient dit convaincus du contraire, persuadés que le glyphosate est bien à l'origine du handicap de leur fils. Depuis sa naissance, Théo, âgé aujourd'hui de 18 ans, a subi 55 opérations pour lui permettre de manger normalement, de respirer et de parler. Sa mère explique avoir largement utilisé un produit désherbant alors qu'elle ignorait encore être enceinte. Le tribunal estime que c'est bien le cas, mais qu'elle n'apporte pas la preuve qu'il s'agit bien du glipper produit par Monsanto. La famille est donc déboutée de son action, mais pour autant, son avocat, William Bourdon, souligne un élément positif en sa faveur à la lecture de ce jugement.
C'est pas une catastrophe, c'est pas une claque, pas du tout. Le tribunal reconnaît Monsanto a participé à la chaîne de production du glyphosate. Ça, c'est un point important, c'est moralement une satisfaction. Monsanto l'a toujours nié, Et on voit bien que, au-delà de la satisfaction morale que ça peut représenter, ça épingle, après d'autres décisions, à nouveau Monsanto, comme le fabricant phare d'un produit dont on sait maintenant à quel point il a été extraordinairement toxique.
William Bourdon avec nos confrères de Ici Isère, ex France Bleu. Les parents de Théo Gratteloup ont d'ores et déjà annoncé leur intention de poursuivre leur combat, même si les preuves 20 ans après restent difficiles à apporter dans ce dossier. Ils vont faire appel de la décision.
C'est une information d'Ici Alsace qui nous alerte cette fois sur une autre atteinte à l'environnement qui nuit à la santé. Une plainte collective est sur le point d'être déposée à l'encontre de Saint-Louis, agglomération et Veolia concernant les PFAS. Plus de 400 personnes se rangent derrière un avocat du barreau de Mulhouse pour attaquer en justice la collectivité et le gestionnaire du réseau d'eau potable. Cela fait en effet près de 3 mois que 11 communes du Haut-Rhin, soit 60 000 habitants, sont soumises à des restrictions de la préfecture sur leur consommation d'eau du robinet. Bonjour Caroline Félix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Car dans les tuyaux, les polluants éternels dépassent les normes en vigueur.
Oui, ils sont parfois près de 4 fois au-dessus des normes dans l'agglomération de Saint-Louis. Ces polluants viennent principalement de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Ils étaient présents dans la mousse anti-incendie des pompiers, qui n'est plus utilisée désormais. L'action collective vise Saint-Louis Agglo et Veolia, gestionnaire. Ils étaient alertés par l'Agence régionale de santé dès 2023, mais ils ont trop tardé à prévenir les habitants. D'après André Chamy, c'est l'avocat qui porte la procédure. Il porte plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, distribution d'un produit nuisible à la santé et infraction environnementale. Il l'explique à nos confrères d'Ici Alsace.
Il y a des analyses qui remontent au mois d'avril 2023. Et probablement d'avant, parce que quand on est concessionnaire d'un service public, on fait des analyses fréquentes pour connaître la qualité de l'eau que je fournis. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, une fois que j'ai obtenu des analyses qui ont un caractère, je dirais, alarmant, j'aurais dû alerter le propriétaire de l'installation, en l'occurrence Saint-Louis Agglo, et la population, parce que qu'il y ait des personnes qui veulent consommer cette eau-là, c'est leur problème, mais encore faut-il qu'ils soient informés.
Et ce n'est qu'en mai dernier que la préfecture tire la sonnette d'alarme. Veolia, de son côté, affirme avoir bien alerté la collectivité, l'entreprise qui a installé 3 unités de traitement des PFAS et promet de fournir à nouveau de l'eau potable d'ici la fin de l'année.
Et Caroline, ce n'est pas la première action en justice concernant les PFAS.
Oui, fin juin, 7 associations ont porté plainte en Normandie, plainte qui a visé BASF, géant allemand de l'agrochimie. L'usine de Saint-Aubin-lès-Elbeuf est accusée de rejet massif et répété de PFAS. Un peu plus tôt, en avril dans l'Oise. Une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui a visé une pollution par déversement dans l'environnement qui a entraîné la contamination de nappes d'eau souterraines.
Caroline Félix, les prix à la consommation en France ont augmenté de 1% en juillet sur un an, comme en juin, tiré par les prix de l'alimentation et des services, annonce ce matin de l'INSEE dans une estimation provisoire. Chute de son bénéfice net au premier semestre, un chiffre d'affaires tout de même en croissance, 2 indicateurs parmi tant d'autres qui obligent le nouveau directeur général de Renault, François Provost, à des orientations. Nommé hier, cet homme du Sérail, il occupait jusqu'alors le poste de directeur des achats, des partenariats et des affaires publiques du groupe, a d'ores et déjà livré les grandes lignes de son plan stratégique. Priorité au marché indien et sud-américain, exit la Chine et les USA. Bonjour Azaïs Perronin.
Bonjour.
Azaïs, réorientation moyennant aussi un gel des embauches.
Oui, le nouveau directeur général du groupe, François Provost, parle d'un contexte de marché difficile. Et c'est dans ce contexte que les managers de l'entreprise ont reçu un mail hier annonçant un gel des embauches jusqu'à fin décembre. La motivation, je cite, « préserver notre flexibilité et renforcer la discipline financière à un moment crucial ». Une annonce loin de rassurer Florent Grimaldi, secrétaire du syndicat CGT Lardy, qui travaille dans la division électrique Ampère.
L'objectif au niveau européen, c'est de passer au 100% électrique en 2035. Nous, on travaille sur des véhicules qui vont sortir dans 2, 3, 4, 5 ans pour les projets d'innovation. Donc, on voit que ça va arriver très vite. Et c'est maintenant qu'il faut mettre les efforts. S'il n'y a pas ces embauches, alors qu'ils viennent juste d'enclencher un plan de départ de pré-retraite et de rupture conventionnelle collective, on va se retrouver à être moins nombreux et avoir encore plus de travail.
De son côté, Guillaume Reybert, délégué syndical de la CFE-CGC, le premier syndicat de l'entreprise, s'est dit dans un premier temps inquiet avant de relativiser.
Ce que l'on constate, c'est que ce n'est pas un gel complet des recrutements, vu que les annonces d'embauche liées par accord ne sont pas remises en cause, que ce soit dans les achats ou sur l'ingénierie produit, où on avait des annonces embauchées sur 2 ans et sachant qu'aujourd'hui, on a déjà effectué 50% des embauches.
En revanche, précise Guillaume Reybert, pour les autres secteurs comme l'informatique, le commerce, le gel est bien effectif. L'embauche serait alors possible uniquement par dérogation.
Merci à vous, Azaïs Perronin. La disparition du journaliste et écrivain Michel Meyer, cofondateur de France Info et correspondant en Allemagne pour plusieurs médias, pendant plus de 15 ans, dont Radio France. Quelques mots de météo pour refermer ce journal. Temps sec et calme sur la plus grande partie du pays. Dégradation pluvieuse toutefois dans l'après-midi de la Manche au Nord-Pas-de-Calais. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia, la technique Ruben Carmazina.